mercredi 27 juillet 2016, il est 16h et des poussières, temps superbe à Victoria, on a actuellement 24 degrés et du soleil. Bienvenue dans Le Débrief, c'est Alexis Gagnon qui vous parle, je suis avec vous jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui, notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond, architecte et spécialiste de l'aménagement du territoire, me parle d'une série d'articles parus récemment dans Architectural Review à propos d'un concept appelé Notopia. Restez à l'écoute, cet entretien sera diffusé vers 16h40. En attendant, on démarre tout de suite avec les informations de notre collaborateur Denis Lépine et on se retrouve de l'autre côté dans quelques minutes pour les infos provinciales notamment. Restez à l'écoute. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le commissaire aux élections fédérales vient de bâcler un marché avec le Parti vert du Canada. Le bureau du commissaire a précisé dans un communiqué que la transaction porte sur l'utilisation d'un prétexte pour inciter des électeurs à ne pas voter pour un candidat par le biais de la distribution de résultats de sondages trompeurs lors de l'élection générale de l'automne dernier. Le bureau du commissaire a souligné que la transaction est une entente volontaire assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la loi électorale du Canada. Le gouvernement canadien rappelle que les gens peuvent se rendre sur son site Web pour présenter une demande d'autorisation de voyage électronique. La plupart des demandes sont approuvées dans les minutes qui suivent l'envoi de la demande. Le coût d'une telle demande est de 7 $ suite aux nouvelles exigences. Eh bien, les voyageurs étrangers dispensés de visa à destination du Canada ou qui transitent par le Canada doivent obtenir l'autorisation. Les citoyens des États-Unis et les voyageurs munis d'un visa canadien valide n'ont pas besoin de la demande. Jusqu'au 29 septembre, bien les voyageurs qui n'ont pas l'autorisation pourront quand même monter à bord de leur avion s'ils peuvent montrer leur passeport. Politique américaine, convention du Parti démocrate, Hillary Clinton a reçu la nomination de son parti hier soir. De plus, Bill Clinton a vanté le parcours de son épouse. Il a rappelé son travail à titre de secrétaire d'État et les nombreux dossiers qu'elle a dû gérer depuis le début de sa carrière politique. À noter que ce soir, le président Barack Obama et le vice-président Joe Biden prendront à leur tour le micro. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a réagi suite à l'annonce du retrait accéléré des wagons-citernes DOT 111. Le bureau a déclaré sur son site Web être heureux de voir que le ministère des Transports a décidé d'agir de la sorte. Le bureau a aussi mentionné que la publication de l'ordre constitue une mesure positive et met en évidence le leadership du Canada en ce qui a trait à la prise de mesures pour améliorer la sécurité des wagons-citernes. Ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominique Leblanc a annoncé une nouvelle ronde de financement pour les chercheurs canadiens qui se penchent sur les effets biologiques des contaminants sur la faune et la flore aquatique. Les universités canadiennes et des organismes de recherche à but non lucratif pourront se partager une enveloppe globale de $3,750,000 au cours des 3 prochaines années. Une nouvelle technologie toute canadienne vient de remporter le prix AgeWell Pitch, soit le concours de présentation de projets technologiques pour venir en aide aux personnes atteintes de démence. L'outil a été élaboré au Winterlight Labs par une équipe de l'Université de Toronto. L'outil est en mesure d'analyser la parole naturelle pour détecter et surveiller la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles cognitifs. Restaurant Canada se réjouit à l'accord de libre-échange négocié par les premiers ministres provinciaux de la semaine dernière. L'accord vise à favoriser, on rappelle, le commerce des produits et des services entre les provinces et Joyce Reynolds, vice-présidente exécutive Affaires gouvernementales de Restaurant Canada, a cependant dit qu'il est frustrant que l'alcool ait été omis. Elle a ajouté toutefois que le groupe est heureux que la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec se soient entendus pour permettre aux consommateurs d'acheter du vin produit dans d'autres provinces. La Société canadienne d'hypothèques et de logements doit publier aujourd'hui son rapport trimestriel évaluation du marché de l'habitation. L'organisme présentera une analyse complétée et intégrée des conditions potentiellement problématiques sur le marché canadien de l'habitation. Un point de presse téléphonique est prévu cet après-midi avec l'économiste en chef de la société Bob Duggan. Les analystes de marchés régionaux seront également présents. Au sport, au tennis, à la Coupe Rogers à Montréal, victoire notamment d'Eugénie Bouchard. Au baseball majeur maintenant, victoire de Toronto en 12 manches hier, 7-6 contre San Diego. La série se poursuit cet après-midi. Toujours au baseball majeur, les Blue Jays ont annoncé l'acquisition du lanceur droitier Joaquin Benoit des Mariners de Seattle. Et au football canadien, c'est confirmé, Ricky Ray manquera au moins 3 matchs. Le vétéran quart arrière des Argonauts de Toronto a subi une blessure au genou lors du match de lundi dernier contre Montréal.
C'était notre collaborateur Denis Lépine qui nous offre tous les jours ses bulletins d'information. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute. L'info se poursuit. On continue avec les nouvelles provinciales. Il y a une étude de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, qui a été rendue publique cette semaine et elle fait état des émissions de gaz à effet de serre par les villes canadiennes et c'est un classement en fait des émissions par ville et on voit que Vancouver, donc la métropole britanno-colombienne, se place très bien au rang des grandes villes canadiennes, est au deuxième rang derrière Montréal avec 7,2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre annuellement. Ce sont les villes de Calgary et Edmonton qui ferment la marche avec 18,2 tonnes et 20,7 tonnes respectivement d'émissions de gaz à effet de serre annuellement. Donc sans surprise, donc les deux villes de la province d'Alberta, les deux grandes villes de la province d'Alberta qui ferme la marche avec des scores peu enviables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On y reviendra sans doute au cours des prochains jours. C'est une étude fort intéressante qui émane de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, à propos des émissions de gaz à effet de serre. Autrement, toujours en Colombie-Britannique, on parle de la crise sanitaire des surdoses de drogue qui cause beaucoup d'inquiétude depuis le début de l'année 2016 au vu de l'augmentation des décès. La Colombie-Britannique, apprend-on dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui, a de nouvelles mesures. La manchette, c'est la Colombie-Britannique met les bouchées doubles dans le dossier de la crise des surdoses. La première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, a annoncé mercredi, c'est-à-dire hier, la création d'un nouveau groupe de travail pour répondre à la crise sans précédent des surdoses en Colombie-Britannique. Il sera composé, ce comité, du docteur Perry Kendall, médecin en chef de la province, et de Clayton Pecknold, directeur des services de police. D'autres membres doivent encore être annoncés à ce comité, parmi lesquels des représentants du Centre provincial de contrôle des maladies et du ministère de la Santé. Un service de test de drogue doit aussi être mis en place par la province pour aider les consommateurs dépendants à vérifier si leur dose contient une substance dangereuse comme le fentanyl. Et le programme d'accès aux traitements et aux médicaments de substitution va être revu et élargi, a-t-on annoncé. La province va aussi continuer d'offrir à l'échelle de toute la province des trousses de naloxone, qui est un antipoison contre les surdoses d'opioïdes. Donc, des nouvelles trousses vont être offertes à l'échelle de la province, des trousses de naloxone, ainsi que des formations pour savoir comment les prodiguer, comment se servir de ces trousses. Ce médicament, le naloxone, est capable d'inverser en quelques minutes les effets d'une surdose aux opioïdes, y compris le fentanyl. Plus de 10 000 trousses ont déjà été distribuées, a annoncé le gouvernement de Colombie-Britannique. Les autorités espèrent désormais un coup de pouce d'Ottawa. On en a parlé cette semaine dans le débrief. La ministre Philpott a fait état de sa volonté d'examiner le problème des surdoses à l'échelle du pays. On sait que le problème est particulièrement aigu en Colombie-Britannique. Atlantique. La Colombie-Britannique a déclaré un état d'urgence en avril dernier, mais la Colombie-Britannique n'est pas la seule province concernée par cette épidémie de surdose. Donc voilà, donc la Colombie-Britannique espère obtenir le secours, le concours du gouvernement fédéral. Pour ce faire, le gouvernement britanno-colombien veut obtenir l'accord du fédéral pour davantage de sites d'injection supervisés, mais aussi faire interdire les machines à comprimer utilisées par le marché noir pour la fabrication de pilules de drogue. La Colombie-Britannique compte demander aussi plus d'outils judiciaires à disposition des services frontaliers du Canada afin de prévenir le trafic. Selon les statistiques officielles de la Colombie-Britannique, 56 personnes sont mortes d'une surdose en juin. Le mois précédent, ce nombre était de 43. On sait que entre janvier et juin, le nombre de décès déplorés par surdose a été de 371, soit une hausse de 74% par rapport à l'année 2015 pour la même période, 100 ans. En avril dernier, voilà, la Colombie-Britannique est devenue la première province au pays à déclarer l'état d'urgence sanitaire à cause de cette crise des surdoses aux opioïdes. Donc, c'est un sujet qui continue d'occuper l'avant-plan des actualités. On en reparlera assurément dans les prochains jours, dans les prochaines éditions du débrief. Autrement, une autre crise, la crise de l'immobilier. On sait qu'il y a une surenchère des prix de l'immobilier en Colombie-Britannique qui affecte l'accès à la propriété, bien sûr, mais aussi l'accès au logement tout court, puisque le marché locatif est concerné. Suite à l'instauration d'une taxe de 15% qui entre en vigueur dans les prochains jours, je crois que c'est au lendemain du BC Day, le 2 août, il y a eu des réactions. Donc, c'est une mesure qui a été applaudie par de nombreux observateurs du marché de l'immobilier. C'est une mesure qui vise à réfréner l'ardeur de ce marché qui s'est emballé au cours des derniers mois et qui atteint des niveaux stratosphériques. Cependant, la mesure le mécanisme de taxation de 15% ne plaît pas à tout le monde. Le parti néo-démocrate de Colombie-Britannique a émis quelques critiques, des réserves à propos de l'adoption de cette taxe qui s'adresse aux acheteurs étrangers, donc qui ont envahi le marché dernièrement et qui ont causé un effet de bulle de l'avis de plusieurs observateurs de ce marché immobilier. Donc, le parti néo-démocrate croit que cette nouvelle taxe pourra être facilement contournée. David Eby, député provincial de Vancouver Point Grey, affirme qu'il existe de nombreuses façons de contourner cette taxe pour les investisseurs étrangers. Il ajoute que cette taxe ne s'applique pas aux préventes d'appartements et de maisons, ce qui signifie que les spéculateurs immobiliers étrangers peuvent toujours acquérir des biens en phase de développement et les revendre plus tard en réalisant un profit. Il déclare « Il y aura toujours le même problème, les spéculateurs étrangers achèteront tous les appartements d'un projet immobilier de la même manière que les trafiquants de billets achètent tous les billets d'une partie de hockey », a-t-il dit à titre d'analogie. Cette mesure applicable dans la région de métro du Grand Vancouver en Colombie-Britannique oblige donc les acquéreurs de biens immobiliers à s'acquitter d'une taxe de 15%, on le disait, 15% de la valeur de la propriété qui fait l'objet d'une transaction, en plus des frais de transfert de propriété. Donc cela représente par exemple 300 000 $ supplémentaires sur une maison qui est vendue au coût de 2 millions de $. D'exemple. Cette taxe s'applique lorsque l'acheteur est étranger ou représente une société de capitaux constituée en personne morale à l'extérieur du Canada ou contrôlée par des étrangers. Donc voilà un bémol, une note discordante dans le concert de félicitations qu'a reçu le gouvernement suite à cette taxe de 15%. Donc il faudra voir justement s'il y a des mesures anti-contrôle contournement dans le mécanisme entourant cette taxe de 15%? Sera-t-elle facile à contourner ou sera-t-elle efficace et donc pourra-t-elle freiner l'envolée des prix de l'immobilier dans la région vancouveroise? Et j'ajoute en terminant que la région de Victoria souhaite également obtenir de la part du gouvernement de Colombie-Britannique une telle taxe, une taxe semblable qui permettrait de calmer le jeu ici dans le Grand Victoria également. Autrement, toujours à propos de cette bulle immobilière, on le sait, elle existe, elle est là, il y a une surchauffe actuellement. Cette surchauffe est confirmée par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la SCHL. L'organisme responsable d'assurer les prêts hypothécaires au Canada affirme dans un rapport qu'il existe un risque de surévaluation immobilière dans plusieurs villes canadienne et particulièrement Vancouver, on va le voir. Les signes de conditions problématiques dans l'ensemble du marché de l'habitation au Canada sont passés de faibles à modérés depuis le rapport précédent, affirme la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la SCHL, dans son dernier rapport dévoilé il y a quelques jours. À Vancouver, en Colombie-Britannique, la SCHL prévient même qu'il existe un risque élevé de surévaluation immobilière. Pardon. Pour l'ensemble du Canada, a commenté Bob Dugan, chef économiste à la SCHL, nous détectons des signes élevés de surévaluation. Par conséquent, notre évaluation globale est passée de faible à modérée depuis le rapport précédent. En outre, le plus grand nombre de signes de conditions problématiques à Vancouver nous mène à conclure qu'il y a des signes élevés de conditions problématiques dans notre évaluation globale du marché de l'habitation à Vancouver. Donc, en deux mots, ça surchauffe à Vancouver et la SCHL n'hésite pas dorénavant à le dire. L'organisme indique aussi que les prix des maisons individuelles à Vancouver sont plus élevés que les niveaux soutenus par des facteurs économiques fondamentaux. Donc, ils ne sont pas justifiés, ces maisons, ces prix de maisons au regard du paysage économique actuel. Donc, autrement dit, traduction, il y a un effet de bulle actuellement sur Vancouver. C'est du moins ce que semble indiquer assez prudemment quand même la SCHL dans un rapport publié cette semaine. Je conclue ce petit segment provincial avec une nouvelle qui concerne le Parti vert du Canada qui est bien implanté ici dans la région du Grand Victoria. On sait que la chef du Parti vert du Canada a une circonscription, donc occupe une circonscription à titre de députée dans la région ici. C'est la circonscription de Sydney Gulf Islands. Elizabeth May en est la députée. Eh bien, le Parti vert a reçu un avertissement, un blâme de la part de l'organisme de l'agence Élections Canada cette semaine pour avoir fait usage de sondages fictifs ou de sondages qui étaient fondés sur des contre-vérités dans ses brochures électorales l'an dernier lors de la campagne électorale qui a mené à l'élection d'octobre 2015. Donc, le Parti vert s'est fait servir un blâme par Élections Canada. De faux sondages avaient été insérés dans ces brochures l'année dernière. Voilà, on a actuellement 24 degrés à Victoria, je vous le disais. Même chose à l'aéroport, tout près de Sydney, 24 degrés, avec un ciel essentiellement dégagé. Il y a quelques petits nuages de ci, de là, rien qui ne signifie ou n'annonce des précipitations. Ça va demeurer dégagé dans les prochaines heures, en soirée, et de même au cours des prochains jours. La température, qui est de 24 actuellement, va même aller en croissant, en augmentant. Demain, on atteindra 26 et vendredi 25, samedi 23 et dimanche 21. Et toutes ces journées que je viens de citer seront ensoleillées sans nuages. C'est du moins ce que nous annonce Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. On reprend notre souffle, on fait une petite pause musicale avec Sally Folk, la pièce Revolver, et on se retrouve dans quelques instants dans le débrief. Thank you.
je t'aime pour plus rien. Les je t'aime qui finissent dans le fond d'une ruelle bien cachée en bandit, en train de comploter le coup du siècle pour ne pas être laissé derrière. Je ne veux pas succomber mais s'attendre d'avancer. Les avances que l'on fait de sursaut au premier, juste pour plaire la tirer dans un trou. Mais cette fois-ci c'est vrai, cette fois-ci c'est vrai. Passons. Ce revolver, ça marchera à coup sûr. Il sait trop ce qu'il arrivera. S'il se laisse pas faire, il fera tout. Sinon il souffrira plus que moi. Passons. Le revolver, et s'il ne comprend pas qu'il se teste pour une fois, je l'avouerai, je t'aime, le condamné. De toute manière, et le voilà qui passe, et le voilà qui va. Pendant qu'il ne voit rien, passe la corde à son cou, ne la tire pas tout de suite. Il le fera lui-même dans un élan d'amour, il se vendra lui-même. Il a peur, il me voit, il a peur maintenant. Il est mort, je contrôle tout maintenant avec son revolver. Passons. Ce revolver, ça marchera à coup sûr. Il sait trop ce qu'il arrivera. S'il se laisse pas faire, il fera tout. Sinon il souffrira plus que moi. Passons. Le revolver, et s'il ne comprend pas qu'il se teste pour une fois, je l'avouerai, je t'aime, le condamné. S'échappe, tous les bourreaux de la ville le sauront qu'il a faibli une fois. Une autre, ça marchera s'il a faibli une fois. Passons. Le revolver, ça marchera à coup sûr. Il se conservera s'il se laisse pas faire. Il perdra tout, sinon il se fera plus que moi. Passons. Le revolver, et main, il comprend pas. Faites le faire pour une fois. Je l'aime, oui, je l'aime. Le condamné en tout. De toute manière.
Revolver dans le débrief, une pièce de l'artiste Sally Folk. Il est 16h23, dis-je bien. Nous allons passer maintenant à la nouvelle du jour. On parle de transport du pétrole. Une fuite dans l'oléoduc de la pétrolière Husky Energy en Saskatchewan a provoqué le déversement de 200 000 à 250 000 litres de pétrole. C'est un chiffre qui pourrait même aller en grandissant au fur et à mesure qu'on comprend exactement ce qui s'est passé. Dans la rivière Saskatchewan Nord, près de la localité de Maidstone. Le déversement suit depuis quelques jours le cours de la rivière et cause beaucoup d'inquiétudes. On en a déjà parlé dans le débrief cette semaine. Deux municipalités en aval de la fuite, Prince Albert, 35 000 habitants, et North Battleford, 14 000 habitants, ont cessé de puiser leur eau dans la rivière et tentent depuis de ménager leurs réserves. Alors, s'agit-il exactement les caractéristiques du pétrole déversé dans cet accident sont encore méconnues ou imparfaitement connues, dirait-on. On a un article sur le portail de Radio-Canada actuellement qui nous renseigne à ce sujet. Le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada essaie toujours de comprendre la façon dont le pétrole déversé dans la rivière Saskatchewan Nord interagit dans l'eau et avec l'écosystème. Plus de détails seront donnés cette semaine, donc vraisemblablement jeudi et vendredi, au sujet des caractéristiques exactes du produit déversé selon le ministère, la compagnie Husky Energy. Husky Energy, oui, qui est une compagnie albertaine, détenue en grande partie par un milliardaire de Hong Kong, soit dit en passant. Donc, cette compagnie collabore actuellement aux analyses. Et ce qu'on peut dire, justement, à ce sujet, c'est l'étonnement qu'on éprouve en apprenant que la compagnie ne s'est pas elle-même renseigné le ministère sur la composition exacte du produit qui a été déversé passé. Ces informations sont essentielles, poursuit cet article de Radio-Canada, pour déterminer une façon de retirer le pétrole de la rivière Saskatchewan Nord, notamment le pétrole qui a fui sous la surface de l'eau. Lorsqu'il y a des débris dans l'eau, le pétrole s'attache à cela et se ramasse ainsi sous la surface de l'eau, explique Wes Kotick, le directeur de la protection de l'environnement de la Saskatchewan. Certains matériaux peuvent même se retrouver au fond de l'eau. Comprendre ce qui est en suspension, ce qui est sous la surface et ce qui est au fond dépend des caractéristiques du pétrole à la source, des caractéristiques de la rivière et des courants. Et donc ça, c'est le commentaire de Wes Kotick, qui est directeur de la protection de l'environnement de la Saskatchewan. L'article poursuit, il n'y a aucun plan pour l'instant pour récupérer le pétrole sous la surface de l'eau, selon le ministère de l'environnement provincial. Il y a en ce moment 9 barrages flottants sur la rivière, mais ces barrages ne sont qu'efficaces que pour le pétrole de surface. La marée haute et les mouvements des eaux compliquent notamment le travail des autorités, selon Wes Kotick. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de marée haute pour une rivière d'eau douce, mais c'est ce qu'écrit cet article du portail de Radio-Canada. J'imagine que c'est en raison des canalisations spéciales qui ont été bâties, donc ça cause peut-être des inondations en certains endroits. Quoi qu'il en soit, l'article poursuit encore, le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques ne prévoit pas que le problème se déplacera jusqu'au Manitoba. Husky Energy a dit qu'elle allait couvrir tous les coûts reliés à ce déversement et je m'attends à ce que ce soit le cas, a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. Par exemple, a-t-il dit, plusieurs petites entreprises de Prince Albert ont dû fermer et il y a des coûts associés à cela et ça doit faire partie du coût total pris en charge par Husky Energy. Alors, Brad Wall, qui se prononce comme ça et qui réagit à ce déversement assez inquiétant. Il faut savoir que c'est un pro-pipeline, c'est un partisan invétéré du transport du pétrole par pipeline et qui a souvent critiqué les craintes que manifestaient des municipalités, des provinces ou des groupes concernant la sécurité des pipelines. Ça a été un des critiques les plus agressifs, j'ai envie de dire, dans ce débat qui a animé le pays depuis quelques années concernant le transport du pétrole et les moyens de le faire parvenir côté est et côté ouest aux routes maritimes. Donc, c'est assez intéressant de voir la situation dans laquelle est plongé actuellement Brad Wall. Ça va mettre en lumière, je crois, les contradictions de sa politique et ça va ouvrir à un débat plus que nécessaire sur le transport du pétrole au Canada. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre, ce déversement de pétrole, plus de 250 000 litres dans la rivière Saskatchewan Nord, en Saskatchewan. On y reviendra dans le débrief. On retourne rapidement en musique. On écoute l'auteur, interprète, compositrice Marie-Pierre Arthur avec sa pièce Papillon de nuit. On se retrouve de l'autre côté pour l'agenda culturel. Marie-Pierre Arthur dans le débrief. Il est 16h33, la pièce Papillon de nuit. Merci d'être à l'écoute de CILS FM. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va se pencher sur l'agenda culturel. Quoi faire à Victoria? J'ai deux propositions pour vous. C'est la dernière chance demain, jeudi 28 juillet, pour assister à des représentations du Festival de l'accordéon de Victoria au Carré Centennial, au cœur du centre-ville, près de l'hôtel de ville. Donc, la place va être occupée demain, angle government et... Government et Pandora, oui, donc par le Festival de l'accordéon de Victoria. C'est la troisième journée consécutive que le Square accueille ce festival. Donc c'est sur l'heure du midi. Si vous avez du temps libre au centre-ville sur l'heure du midi, n'hésitez pas à faire un petit tour de ce côté pour écouter quelques chansons, quelques morceaux d'accordéon sur place au Carré Centennial. Autrement, ce soir à Ciné Santa, on a un long métrage documentaire intitulé I Am the Blues. C'est une coproduction USA-Canada réalisée par Daniel Cross. C'est à 19h et 21h10. Va porter sur le blues, le blues du Bayou, le blues du Mississippi, tous ces blues qui sont aux sources de ce genre musical. C'est un film documentaire qui a reçu d'excellentes critiques partout où il a été projeté. Donc c'est à 19h et 21h10, intitulé I Am the Blues à Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria, 19h et 21h10. Donc c'est un choix encore là musical dans l'agenda culturel qu'on referme tout de suite pour retourner en musique. Justement, je vous propose une pièce de l'artiste Peter intitulée Noir Eden. On se retrouve de l'autre côté pour la revue de presse.
Je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M seul avec moi. La dame est gentille et quand elle parle défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pensais j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliers de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde. J'ai des questions, des milliers de questions, une de plus à chaque seconde. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelque autre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. De loup entre et dévore tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend rebelle, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré. J'écris mes aveux dans le bloc-notes. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, cette personne.
Peter, dans le débrief, il est 16h38. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On va maintenant projeter un coup de sonde dans la presse nationale et internationale. C'est l'heure de la revue de presse. J'ai remarqué quelques textes ici et là sur la toile. Je vous les soumets. Je les soumets à votre attention. On va commencer par un papier signé par Paul Journet dans le journal La Presse. Ça concerne les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. On voudrait tellement que ça se passe bien pour Rio de Janeiro. Malheureusement, on dirait que le Brésil accumule les impairs, les ennuis, les imprévus, les obstacles, le Zika à sévi, ce virus s'est particulièrement manifesté au Brésil, surtout au printemps. La situation semble s'être calmée un petit peu, mais ça a convaincu plusieurs athlètes d'annuler leur participation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Autrement, on a beaucoup parlé de la situation politique instable dans laquelle est plongé le pays actuellement. On sait que la première ministre, la chef d'État Dilma Rousseff fait face à une procédure de destitution. Elle a été écartée du pouvoir. C'est le Sénat qui décidera si effectivement elle est évincée pour de bon. Mais elle a été mise de côté par un putsch plus ou moins légal, un putsch constitutionnel sans violence, mais néanmoins très inquiétant pour la démocratie de ce pays. Et voilà, donc les ennuis s'accumulent et Paul Journet, dans ce texte paru dans la presse, se penche sur la question du golf qui finalement cristallise un petit peu un tas d'autres questions concernant ces jeux. Il écrit à propos du golf qui n'était pas jusqu'à présent au palmarès, si vous voulez, au nombre des disciplines olympiques. Il fait son entrée cette année. Alors je vous lis quelques passages de ce texte publié dans la presse par Paul Journet dans les pages éditoriales. Le golf rend service aux Jeux Olympiques en exposant depuis quelques semaines leur ridicule, écrit-il. Après 112 ans d'absence, le sport devait faire son grand retour aux Jeux Olympiques cet été. Or, les vedettes restent chez elles. 6 des 10 meilleurs joueurs au monde se sont désistés par peur du virus Zika ou par simple manque d'intérêt. C'est le cas de Rory McIlroy, concurrent le plus connu. S'il ouvre son téléviseur, ce sera pour voir l'athlétisme ou la natation, les disciplines qui comptent, a-t-il avoué sans détour. Paul Journet poursuit. Des athlètes d'autres sports se sont moqués, non sans raison, des lamentards millionnaires du golf. Mais le problème n'est pas qu'ils refusent de venir, c'est qu'on les ait invités. Selon Paul Journet dans la presse, le golf n'a aucune tradition olympique, écrit-il. Les tournois importants sont les 4 tranches du Grand Chelem où chacun joue pour soi. Il existe aussi un tournoi par équipe, la Coupe Ryder, riche de plusieurs décennies d'histoire, que les Olympiques n'égaleront jamais. Le Comité international olympique a malgré tout tenté une étrange greffe. Certes, cette greffe plaira aux fans et offrira une vitrine bienvenue au golf féminin, mais en le replaçant dans le contexte plus général des Jeux Olympiques, on réalise que cette greffe sera nuisible, estime Paul Journet. En fait, cette greffe incarne tout ce qui a transformé le rêve olympien en cauchemar pour les contribuables des pays hôtes. Le baron de Coubertin, père du mouvement olympique, souhaitait que le sport contribue au développement harmonieux de l'humanité, mais la caste du Comité international olympique s'intéresse particulièrement au développement des marchés télévisés et publicitaires. écrit Paul Journet dans la presse. Donc le golf qui révèle finalement les dysfonctionnements du CIO et des Jeux olympiques de l'ère moderne, surtout les Jeux olympiques du 21e siècle, qui font déficit par-dessus déficit et qui laissent des cicatrices plutôt que de bons souvenirs dans les pays hôtes. Je me tourne à présent dans les pages, vers les pages du journal Le Devoir, dans lequel on trouve un texte de Francine Pelletier, qui est une éditorialiste, une chroniqueuse plutôt régulière. C'est un papier dans lequel elle compare Hillary Clinton à d'autres femmes politiques. Elle rappelle que ce qu'on exige des femmes politiques est toujours excessif. À l'image de à l'instar de ce qu'on exige de certaines athlètes féminines aussi, mais je vais tout droit au dernier passage de son texte. Elle parle, Francine Pelletier, donc dans ce texte sur Hillary Clinton, du choix d'Hillary Clinton pour le poste de vice-présidente, donc son colistier, il s'appelle Tim Kaine. Francine Pelletier se pose des questions au sujet de Tim Kaine. Que dire de ce choix, demande-t-elle, une décision qui fait davantage l'affaire de la base républicaine que celle de l'aile gauche démocrate. Un choix aussi timide démontre un parti pris pour l'establishment dont Madame Clinton est l'incarnation ultime, mais aussi un choix qui démontre un parti pris pour la vieille politique, écrit Francine Pelletier. Une façon, finalement, écrit-elle, de dire simplement ce qu'on croit des électeurs. Voilà, donc Francine Pelletier estime que Hillary Clinton n'a pas entendu la volonté de sa base et celle plus largement des électeurs. Ce que le bouillant mouvement derrière Bernie Sanders, écrit-elle, tout comme le volcan nommé Donald Trump, révèle, c'est que de larges pans de l'électorat sont en colère vis-à-vis d'un système politique qu'ils perçoivent comme truqué. Pour les Bernieacs, donc les partisans mordicus de Bernie Sanders, c'est la mainmise du 1% au détriment des plus pauvres qui les rend fous. Pour la horde des angry white males qui appuient Donald Trump, ce sont les politiques qui favorisent l'immigration et le libre-échange au détriment des emplois dans le secteur manufacturier et agricole. Dans un tel contexte, Hillary Clinton, écrit Francine Pelletier, loin d'offrir une solution, fait partie, en fait, du problème. Elle est l'incarnation même d'un système qui favorise et récompense certaines castes aux dépens des autres. Selon le cinéaste Michael Moore, continue l'auteur, c'est précisément ce ras-le-bol vis-à-vis d'un système politique en panne qui explique pourquoi Trump pourrait l'emporter. Michael Moore est donc cité par l'auteur ici, pas nécessairement parce qu'on aime le bonhomme ou parce qu'on entérine sa bigoterie, mais simplement par besoin de bouleverser l'ordre établi et d'envoyer un message à papa et maman. Donc ça, c'est une citation de Michael Moore sur les électeurs qui choisiront de donner leur vote à Donald Trump. Et Francine Pelletier conclut, Maman Clinton, on le voit, a toute une côte à remonter. Voilà, c'est un texte intitulé Les malheurs de Hillary. C'est signé Francine Pelletier dans les pages éditoriales du journal Le Devoir en date d'aujourd'hui. Autrement, dans un média qui s'appelle Mediapart.fr, un média indépendant, je vous recommande un texte sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie et les difficultés pour ce qui concerne la crise migratoire. Donc la Turquie a vraiment le gros bout du bâton actuellement dans la gestion de la crise migratoire qui origine de la guerre civile en Syrie. C'est la Turquie qui détient finalement les clés du portail menant à l'Europe et l'Union européenne est obligé de composer avec ce pouvoir que détient la Turquie, qui est d'autant plus difficile une situation qui est d'autant plus épineuse, oui, du fait du récent coup d'État manqué en Turquie et de la purge qu'a exercé le chef d'État Erdogan suite au coup d'État raté. Alors, relation UE et Turquie, la grande imposture, c'est dans Mediapart.fr. Je vous encourage à lire ce texte si la question de la crise migratoire vous intéresse. On va aller tout de suite à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais en ouverture d'émission, je m'entretiens aujourd'hui avec notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond, architecte et spécialiste de l'aménagement du territoire. Jean-Christophe me parle aujourd'hui d'une série d'articles parus dans Architectural Review à propos d'un concept qui s'appelle NoTopia. Restez à l'écoute, donc cet entretien tout de suite dans quelques secondes et on se retrouve pour le mot de la fin vers 16h57. À tout de suite. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. On est en fin de journée, la fin d'émission approche. C'est le moment de passer à l'interview du jour. Je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Christophe Leblond, architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Nous parlons de la ville. Qu'est-ce qui arrive à nos villes? Sont-elles en santé? Sont-elles bien planifiées? Phénomène observe-t-on dernièrement? Jean-Christophe veut nous parler d'un thème de recherche, d'une voie de recherche qui s'appelle NoTopia. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis. Alors, le prestigieux magazine d'architecture mensuel britannique Architectural Review a consacré deux numéros au phénomène de ce qu'ils appellent la NoTopia. Qui veut dire la non-topie, qu'ils opposent à utopie. L'utopie est un lieu idéal et imaginaire qui est hors de la réalité, tandis que la non-topie, c'est la transformation de lieux en non-lieux, c'est-à-dire la dématérialisation, si on veut, des villes en tant que lieu de vie réel.
Donc, topos signifie lieu en grec, bien sûr, donc non-topos, non-topie. C'est encore abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Concrètement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on s'aperçoit de plus en plus que l'architecture devient complètement indifférenciée d'une ville à l'autre, que ce soit la périphérie de Bombay ou le centre-ville de Singapour ou de Dallas. Toutes les architectures en viennent à se ressembler, à se fusionner en une espèce de tout mondial qui est fait de plaque au plâtre et d'air climatisé. D'autre part, autre phénomène réel qui affecte, entre autres, beaucoup la côte ouest en ce moment, le fait que les villes soient devenues une espèce de manifestation de la spéculation immobilière et des mouvements du capital incontrôlés, et que la ville est devenue une construction qui est là pour servir d'abord ces investissements-là plutôt que les communautés qui les habitent.
Et le vivre ensemble. Donc,
le vivre ensemble, et non pas de... L'architecture a comme été découplée de la fonction sociale.
Et c'est ça. Donc, on a bien sûr tous les deux abordé la question de la surenchère immobilière qui sévit à Vancouver. On a parlé de tous ces immeubles qui sont comme considérés par les investisseurs comme des lingots, des blocs d'actifs et non comme justement des lieux de vie et d'échange sociétal. Donc, la NoTopia justement déplore ces développements récents, ces développements-là.
Oui, et en même temps, c'est que plutôt que de voir la nature du vrai problème, à savoir que les communautés qui ont créé l'ambiance, l'atmosphère et l'identité unique de tant de villes à travers le monde,
oui,
fait que il peut y avoir des centaines de villes qui ont toutes leurs raisons d'être et leurs valeurs parce qu'elles ont cette identité, cette atmosphère, ces qualités qui leur sont propres et qui ont été construites par leur population, la communauté qu'elles ont créée, sont en train de se désagréger. Et puis, au même moment, nos gouvernements et nos investisseurs, nos grands investisseurs, promoteurs, semblent penser que de construire plus de bâtiments aux formes éclatantes, des tours toujours plus hautes et plus éclairées, résoudra le problème de s'assurer que leur ville reste distincte et reste... l'image de marque de la ville soit conservée alors que leur substance même est en train de se déliter.
Mais que fera l'UNESCO dans 100 ans quand elle devra choisir des sites architecturaux et urbains uniques? Elle va avoir de la difficulté puisque tout sera pareil?
Ben, c'est une très bonne question. En effet, l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, qui est probablement le plus grand architecte qui pratique actuellement, aussi bien au niveau de ses réalisations que de ses réflexions théoriques sur l'architecture, fait remarquer que en ce début de 21e siècle, on a construit plus qu'à n'importe quelle autre époque
précédente,
des origines de l'humanité, mais pourtant que la qualité de ce qu'on a construit est parfaitement médiocre. Et donc, il faut même voir quel pourcentage de ça va résister au temps.
Oui, parce que là, on a un problème d'uniformité, donc de fadeur. Et est-ce que cet article paru dans la prestigieuse revue Architectural Digest propose des voies de solution ou entrevoit des développements positifs qui pourraient permettre d'échapper à ce phénomène?
Ben, en fait, c'est que les solutions ne sont pas si complexes ou difficiles. C'est juste qu'il faut accepter de confronter de reconnaître le problème. Et le problème, c'est que beaucoup de nos politiciens n'ont pas nécessairement l'envie ou l'intérêt de mettre des bâtons dans les roues du flot des investissements. Des fois, il y a des conflits d'intérêts, par exemple. Et c'est une espèce de façon de penser qui est à revoir. Mais je veux dire, les solutions, on les connaît. On a certaines qui ont déjà commencé à être appliquées face à la crise, comme à Vancouver, où le gouvernement de Colombie-Britannique a finalement décidé d'imposer une taxe sur l'achat d'immeubles par des non-résidents. La ville de Vancouver qui a l'intention de taxer les logements qui sont vides. Ça, c'est le genre de mesures concrètes qui sont nécessaires, c'est-à-dire de se rendre compte que l'économie doit être dirigée pour qu'elle soit au service de la communauté, parce que l'économie seule, sans aucune attache dans la réalité, crée sa propre réalité, en fait, qui est complètement virtuelle.
Donc, ces mesures-là sont bienvenues, bien sûr. Elles vont peut-être permettre de calmer un petit peu la surchauffe qui ébranle le marché de l'immobilier sur Vancouver et notamment sur le plan locatif, ce qui touche beaucoup les chômeurs, les étudiants, les personnes âgées, etc., les monoparentales. Mais on va continuer quand même de bâtir ces immeubles uniformes qui sont pareils comme les Starbucks et les McDonald's de Hong Kong et de l'État de l'Ohio, par exemple.
Il y aura... Exactement. Alors, très bon parallèle. C'est exactement ça.
Donc, ce problème de l'uniformité est au cœur du terme Nautopia, non? C'est un peu...
Oui, exactement. C'est la dissolution du lieu et la dissolution de la communauté qui habite le lieu. Et vraiment, ce que propose, l'éditrice de ce mensuel,
oui,
c'est qu'il faut recommencer à pratiquer la planification urbaine. en fonction de la communauté. Déjà, l'Europe, par exemple, est en avance sur l'Amérique du Nord là-dessus, parce qu'ici, de façon générale, la compréhension qu'on a du développement urbain, c'est que c'est le secteur privé qui propose des projets, alors que dans des pays comme les Pays-Bas ou la France, par exemple, il y a quand même une façon de faire bien implantée où ce sont les pouvoirs publics qui définissent les projets de développement. Oui. Et ensuite, c'est le secteur privé qui les réalise, mais selon le schéma qui a été le plan d'ensemble qui a été défini par le secteur public. En fait, le projet de développement lui-même a été défini par le secteur public.
Et par souvent, des élus par exemple, et des gouvernements qui ont reçu leur mandat de la population, finalement, de la société
qui vont
civile.
Faire appel à des concours d'architecture, par exemple, pour développer des nouveaux quartiers ou pour redévelopper des zones urbaines.
Donc il y a un espoir contre cette mauvaise herbe de la notopia, si tu me passes l'expression. Est-ce qu'il y a des cas de figure, des exemples qui peuvent servir de modèle au Nord-Américain et à tous ces promoteurs de par le monde qui veulent reproduire comme on clone les immeubles identiques à toutes les latitudes finalement? Est-ce qu'il y a des modèles?
Écoute, je pense que les modèles sont en train de se développer. C'est un fléau quand même. Disons que la conscience du fléau est récente. Et donc, la réaction est en train de se construire, si on veut. Par exemple, par cet appel du Architectural Review et des petits gestes locaux, mais qui restent encore... J'imagine que ça va prendre de l'ampleur. Donc des vrais exemples complets qui sont déjà source d'inspiration, pour l'instant, je n'en connais pas.
Mais si on en trouve au Canada, on les regardera à la loupe dans une prochaine conversation, si tu le veux bien, Jean-Christophe. Ce serait formidable. Donc, merci de nous avoir attiré l'attention sur cet article paru dans Architectural Digest. C'est bien ça? Review?
Architectural Review.
Review, oui. Pardon. On trouve ce papier facilement sur Internet?
Oui, il y a le site de la compagnie, du
média,
de la publication sur Internet, oui. Donc,
le titre, encore une fois?
The Architectural Review.
Le titre de l'article?
En fait, c'est pas un article, c'est deux numéros du mensuel qui ont été consacrés à ce phénomène.
Une
utopia.
Carrément, donc ils ont consacré deux numéros entiers. À ce phénomène, ils ont l'attention du monde de l'architecture avec ces deux numéros, sûrement. On y reviendra. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Au plaisir de se reparler prochainement d'aménagement du territoire et d'architecture.
Ben, ça m'a fait grand plaisir, Alexis.
À bientôt.
Au revoir.
16h59, vous êtes à l'écoute de CILS-FM. Merci d'avoir suivi le débrief. On se retrouve demain, même heure, c'est-à-dire 16h, pour une nouvelle édition.